Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud.
C'est quand même très important que les femmes puissent maintenant oser dire, comme elles n'osaient pas dire avant le viol, maintenant un grand nombre, pas toutes, mais un grand nombre osent dire le harcèlement.
La violence sournoise, mais totale, que l'on subit ici dans les usines, tout cela maintenu au nom de l'économie, est en réalité une mise en esclavage.
Une mère célibataire, même après la naissance de son enfant, reste sous la tutelle de ses parents.
C'est une règle des droits de l'homme que précisément les hommes doivent aider les autres hommes.
Sartre et Beauvoir, ils forment le couple d'intellectuels iconiques du XXe siècle. Ils ont révolutionné la philosophie et le féminisme. Guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, révolution cubaine. Ils ont aussi été de tous les combats politiques entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970.
C'est que je suis un intellectuel et que voilà, un siècle, l'alliance du prolétariat et des intellectuels a existé et qu'elle représentait une force considérable. Il faut que les intellectuels et les ouvriers s'unissent.
Mais Sartre et Beauvoir, c'est aussi un couple qui a forgé une vision moderne de la relation conjugale.
Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori?
Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que ça faisait.
À travers les relations passionnelles et parfois tragiques de ces deux philosophes engagés, nous allons nous replonger ensemble au cœur des grands moments du siècle dernier dans une série spéciale en 4 épisodes émaillée d'archives Europe 1. Sartre et Beauvoir existaient ensemble. Dans le deuxième épisode de ce récit exceptionnel en 4 parties sur Sartre et Beauvoir, le couple s'est affirmé en tant qu'intellectuel reconnu du tout Paris. Sartre profite de son immense succès d'après-guerre pour faire un bébé avec son castor. Épisode 3. Des philosophes engagés. Je sais que vous êtes très nombreux à froncer les sourcils parce que vous vous dites que Sartre et Beauvoir n'ont jamais eu d'enfants. Quand je parle de bébé, c'est un bébé symbolique, bien sûr. Leur création commune, c'est le journal Les Temps Modernes. En 1945, pour fonder leur revue qui mène une réflexion sur l'actualité, Sartre et Beauvoir s'entourent des plus beaux esprits de leur temps. Ils en connaissent certains depuis les bancs de l'ENS, comme Maurice Merleau-Ponty et Raymond Aron. Mais il y a aussi des talents de la jeune génération, comme Jacques-Laurent Bost ou le cinéaste Claude Lanzmann. Soit dit en passant, Beauvoir a une liaison pendant près de 2 ans avec Lanzmann, qui vit même chez elle pendant quelques temps, alors même que Sartre et elle ont toujours refusé de vivre ensemble. Mais le sujet n'est pas là. Des amours, ils en auront bien d'autres, mais on ne va pas les réduire à ça. Lanzmann et Beauvoir restent amis au-delà de leur histoire d'amour. D'ailleurs, le castor soutient et encourage le cinéaste à réaliser Shoah, un documentaire de 9h30 sorti en 1985 qui raconte l'indicible, l'extermination systématique des Juifs par les nazis.
Je crois qu'il faut toujours continuer à témoigner, et en particulier sur l'Holocauste, que trop de gens ont tendance à oublier. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons une reconnaissance terrible d'antisémitisme. Et ça n'est pas du tout que ce film va effacer l'antisémitisme, mais c'est qu'aux gens qui ne sont pas antisémites, il peut donner quand même alors vraiment un peu une connaissance qu'on voudrait aujourd'hui vraiment abolir. Donc je trouve que c'est extrêmement important, le film qu'a fait Claude Lanzmann.
Et vous pensez qu'il n'est pas trop tard dans l'histoire?
Il n'est pas trop tard, c'est juste à temps, puisqu'il est arrivé à retrouver quand même un certain nombre de survivants, aussi bien des nazis que quelques juifs rescapés, mais que dans 10-15 ans, ça serait peut-être un peu trop tard. Mais maintenant, c'est juste le moment où on peut encore arriver, comme il l'a fait, d'une manière d'ailleurs magnifique, à ressusciter ce passé.
La revue publiée par la maison d'édition parisienne Gallimard devient la plus prestigieuse publication française de rang international. Pendant plus d'un demi-siècle et même après la mort de Sartre, Les Temps modernes resteront une revue consacrée au débat philosophique, à la culture et à la politique. Sartre tient à ce que les décisions relatives à son journal soient prises de manière collégiale. Le comité de rédaction se retrouve parfois chez Sartre lui-même. Tout le monde fume en construisant le sommaire du prochain numéro. Enfin, tout le monde, pas vraiment. Simone crapote plus qu'elle ne fume et on le voit très bien dans les documentaires. Vous y ferez attention la prochaine fois que vous en verrez un. On est à l'époque où les États-Unis colportent leur art de vivre à l'américaine et aux États-Unis, fumer pour les hommes, ça fait viril et pour les femmes, ça fait émancipé. Et pourtant, Sartre n'est pas vraiment tourné vers les États-Unis. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde est polarisé entre les États-Unis et l'URSS. La zone d'influence de chacun de ces pays s'arrête au niveau du rideau de fer qui coupe l'Allemagne en deux. Berlin se trouve dans l'orbite de l'Est, mais il y a une enclave sous contrôle américain, c'est le fameux Berlin-Ouest coupé par le mur de Berlin. Le rideau de fer se poursuit le long de la frontière de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Yougoslavie et de l'Ukraine. Ces pays sont liés par le pacte de Varsovie, l'alliance militaire du bloc de l'Est. Les pays à l'ouest du rideau de fer se trouvent quant à eux dans l'alliance militaire de l'OTAN. Et clairement, Sartre et Beauvoir ne sont pas à l'aise avec l'impérialisme américain et le capitalisme. Comme beaucoup d'intellectuels de gauche à l'époque, ils sont séduits par le socialisme et le communisme, d'autant plus que les pays de l'Est leur font une cour assidue. En 1960, Fidel Castro, qui s'est imposé comme le seul maître de Cuba après un coup d'État, a fait de son pays une base avancée du communisme en Atlantique. C'est pour cette raison que les Américains ont mis en place un très sévère embargo qui appauvrit considérablement l'île. Pour prouver que tout va bien à Cuba, le leader Maximo invite des intellectuels de renommée internationale. En 1960 donc, Sartre est une véritable star internationale et Beauvoir est devenue une icône du féminisme moderne grâce à la publication du Deuxième Sexe en 1949. Dans cet essai, elle répond à la question « Qu'est-ce qu'une femme ?» en s'interrogeant sur son propre parcours. Elle y prône l'indépendance sexuelle, le saphisme, défend l'avortement et questionne le rôle de mère. Elle est aussi reconnue comme une romancière grâce à son roman « Les mandarins » qui lui a valu le Goncourt en 1954. L'intrigue met en scène les réflexions d'un groupe d'intellectuels au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les personnages sont tous inspirés des proches de Beauvoir. Le couple, qui est une figure de proue de l'intelligentsia marxiste, accepte donc l'invitation de Castro dans le but de faire un reportage à Cuba. Il est convaincu que ses idéaux communistes valent mieux que l'impérialisme américain. Et voilà Sartre et Beauvoir en train de faire le tour de l'île avec Castro. La première halte a lieu sur une plage publique puisque, selon les préceptes communistes, il faut en finir avec la propriété privée. Les eaux sont cristallines, le décor caribéen idyllique. Castro propose une partie de pêche au revolver, puis demande à servir une boisson à ses hôtes. Hélas, les breuvages sont tièdes. Le commandante demande alors pourquoi les boissons ne sont pas fraîches. La réponse est simple. Les frigos sont en panne. Furieux, Castro donne de grands coups dans ses frigos anti-révolutionnaires avec un succès plus que mitigé. Sartre commence à avoir des doutes sur la personnalité de son hôte, mais il se tait. Il ne peut que constater les échecs de la politique du ministère du tourisme cubain. Un peu plus tard, aux abords d'un vaste champ, les deux philosophes constatent que les tracteurs sont à l'arrêt. Ils s'approchent des ouvriers avec Castro. Ceux-ci le saluent d'un simple « bonjour Fidel ». Le leader Maximo leur demande pourquoi personne ne conduit le tracteur. L'homme qui devait le faire confie qu'il ne sait pas conduire cette machine et que ceux qui le savent ont été affectés à d'autres postes. Sartre constate incrédule que le ministère chargé de la réforme agraire a distribué les emplois aux ouvriers sans tenir compte de leurs qualifications. Difficile dans ces conditions de tirer les fruits de cette terre mise en collectivité. Sartre observe Castro se décomposer. Son système révolutionnaire ne fonctionne pas. Il est dans l'impasse. Sartre a des doutes sur Castro. Il est même déçu. Il sent combien la révolution peut vite flirter avec la tyrannie. Il espérait pourtant que la révolution serait un souffle, qu'elle permettrait l'égalité et la fraternité. Mais il ne peut se résoudre à critiquer le castrisme pour le moment. Il ne le fera que bien plus tard, quand Castro s'attaquera à des intellectuels locaux pour les empêcher de critiquer son régime. Pour l'heure, il publie dans France Soir une série d'articles tout à fait élogieux au sujet de Castro et de Cuba. Pour autant, malgré une visite peu probante, Sartre continue de tourner le dos au capitalisme. D'ailleurs, ce qui occupe désormais le couple Sartre-Beauvoir, ce sont les événements d'Algérie, comme on dit à l'époque. On ne parlera que plus tard de la guerre d'Algérie qui se tient entre 1954 et 1962.
Ici Alger. Cet après-midi à 17h30, dans trois cafés européens les plus connus et les plus fréquentés de la ville, trois attentats terroristes ont été commis.
Dès ce matin, l'armée a envahi la Casbah et obligé les musulmans à sortir de leur domicile.
Hier soir, une grenade a été lancée dans un bar-restaurant de la rue Joinville, c'est-à-dire non loin de la place d'Isly, en plein centre de la ville.
Alger connaît depuis 48 heures une recrudescence d'attentats terroristes. Hier, c'était un camion militaire qui tombait dans une embuscade aux portes d'Alger et deux militaires étaient tués.
Et cette fois encore, ils sont du côté du plus faible, c'est-à-dire en faveur des Algériens qui réclament l'indépendance. Depuis le milieu des années 1950, Sartre condamne la colonisation. En cette année 1960, il accepte de déjeuner avec son ancien camarade de l'ENS, Raymond Aron, pour évoquer la guerre d'Algérie. Aron est un intellectuel pro-atlantiste classé à droite, contrairement à Sartre, homme de gauche favorable au marxisme, au socialisme et au communisme. Mais cette fois, les deux hommes sont d'accord au sujet de l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas la France, et ce pays doit devenir indépendant. Mais dès lors qu'il faut entrer dans l'analyse du phénomène de décolonisation, les deux hommes divergent. Pour Sartre, le colonialisme naît d'un besoin du capitalisme d'élargir un sous-prolétariat d'ouvriers agricoles sans droit et sans identité pour faire des profits. Pour Aron, le colonialisme ne relève pas du système capitaliste, mais d'un phénomène historique accidentel et transitoire. Les deux hommes finissent le déjeuner en froid. Ils ne se verront plus pendant presque 20 ans. Sartre se fait des ennemis à cause de ses nombreux textes en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Le philosophe ne limite pas son engagement à sa plume. Il participe à une marche militante le 17 octobre 1961, organisée par le FLN, le Front de Libération Nationale. Les méthodes du FLN sont souvent violentes et ils cautionnent le recours au terrorisme. Ce qu'on appelle alors la marche d'octobre est pourtant une manifestation pacifique d'Algériens indépendantistes. Elle a lieu dans les rues de Paris, au mépris du couvre-feu alors imposé aux ressortissants algériens. Des affrontements avec la police aboutissent à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de morts. Les historiens ont encore du mal à obtenir un décompte précis. Le soutien de Sartre aux indépendantistes algériens attise la haine de l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, une organisation terroriste française d'extrême droite favorable à l'Algérie française. Pour intimider le philosophe, l'OAS fait poser à deux reprises des bombes devant son immeuble. La déflagration de la deuxième bombe est si puissante qu'elle souffle la cage d'escalier du 42 rue Bonaparte.
L'appartement de Jean-Paul Sartre.
L'appartement de Jean-Paul Sartre se trouvait sur le même palier que le mien, c'est-à-dire juste la porte en face.
C'est-à-dire même pour sortir là de chez vous, pour aller chez donc Jean-Paul Sartre,
il faut y aller
à quatre pattes.
Il faut se glisser sous la rampe qui est tordue, sous les poutres qui sont par terre et sur des gravats. Il y a des canalisations d'eau qui sont coupées, ça goûte dans l'appartement.
Il n'y a pas eu de blessés dans la maison.
Non, d'après ce que j'ai entendu dire, je crois qu'il n'y a pas eu de blessés, mais il y avait des enfants et un peu de panique.
Sartre décide de quitter son cher Saint-Germain-des-Prés pour le quartier du Montparnasse, où il prend un nouvel appartement face au cimetière. Beauvoir, sa mère et sa secrétaire Arlette El-Kaïm le suivent et prennent chacune un appartement à côté du sien. De son côté, Beauvoir s'engage aussi pour l'indépendance de l'Algérie, mais du côté des femmes. Toujours en cette année 1960, Jamila Boupacha, une membre du FLN, est arrêtée à Alger pour avoir posé une bombe dans une brasserie. Heureusement, aucun mort n'est à déplorer grâce à l'intervention des démineurs. Mais ce n'est pas la police qui s'occupe de la jeune militante. C'est l'armée française qui la viole avec des objets à plusieurs reprises et lui inflige d'abominables tortures. Les soldats impliqués dans ces sévices la frappent, la brûlent avec des cigarettes, lui mettent des électrodes sur toutes les parties sensibles du corps et l'immergent à plusieurs reprises dans une baignoire. Le frère de Jamila Boupacha contacte une jeune avocate qui commence à faire parler d'elle parce qu'elle a défendu plusieurs membres du FLN. C'est Gisèle Halimi. Gisèle Halimi raconte les tortures subies par sa cliente à Simone de Beauvoir. Outrée, la philosophe écrit une tribune qui dénonce les exactions de l'armée française qu'elle donne au journal Le Monde. L'article décrit avec minutie ce qu'a enduré Jamila Boupacha. La rédaction du prestigieux quotidien est très mal à l'aise. Beauvoir décrit les viols subis par la jeune Algérienne en utilisant le mot « vagin ». À l'époque, on n'utilise pas ce genre de vocabulaire dans un quotidien national. Le rédacteur en chef préfère qu'on utilise le mot « ventre ». Beauvoir se met en colère. Elle refuse qu'on atténue son propos. Elle accepte cependant un compromis. Elle écrit, et je cite, qu'on lui a inséré une bouteille dans le ventre, métaphore pudique pour décrire un viol. Beauvoir et le rédacteur en chef se mettent d'accord sur ce texte intitulé « Pour Jamila Boupacha » qui paraît le 2 juin 1960. Au moment de l'apparition du quotidien, le Premier ministre Michel Debré fait saisir les exemplaires du Monde distribués en Algérie. Malgré la censure, Beauvoir a réussi son coup. L'affaire est médiatisée. La philosophe défend maintenant les intérêts de la jeune Algérienne avec Sartre, Louis Aragon, Elsa Triolet, l'ancienne résistante Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonioz, la propre nièce du général de Gaulle. Grâce au lobbying de ce comité, la magistrate Simone Veil, alors en charge des prisons, fait transférer Jamila Boupacha dans une prison de la métropole en attendant son jugement. La jeune femme est amnistiée dans le cadre des accords d'Évian en 1962.
Pour la première fois officiellement, le texte des accords vient d'être annoncé aux Algériens.
Depuis une heure, c'est-à-dire depuis 8 heures maintenant, Alger retentit d'un concert de casseroles répercuté de tous les balcons de la ville.
Ce sont les accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'Algérie. Ils imposent un cessez-le-feu immédiat et réclament l'organisation d'un référendum en France et en Algérie au sujet de l'indépendance de l'ancienne colonie. Les résultats sont sans appel. L'Algérie n'est plus française. Le calme ne revient pas pour autant. Les Français d'Algérie quittent dans un climat de terreur un pays où leur famille était installée depuis 3 ou 4 générations. C'est la valise ou le cercueil. Les pieds noirs sont suivis dans leur exil par les harkis, ces Algériens qui étaient du côté de la France. Le déracinement est violent et l'accueil des métropolitains peu chaleureux.
Vous êtes originaire d'Algérie, monsieur ?
Oui.
Oui, pour quelle raison êtes-vous venu en métropole ?
Trouver du travail, parce que j'ai abandonné tout ce que j'ai en Algérie. J'étais patron ébéniste.
Et vous avez tout abandonné ?
Tout.
Vous avez vendu quelque chose ?
Ah non, je ne peux pas vendre. On n'achète pas.
Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans votre cas.
Toute l'Algérie entière.
Vous avez laissé vos parents en Algérie ?
Oui.
Et pourquoi vous a-t-on envoyé en métropole ?
Non, parce que à Alger ça va très mal, alors comme j'ai peur des bombes et des coups de mitraillette, maman m'a envoyé.
Où allez-vous aller ?
Chez ma tante.
Vous avez quel âge ?
7 ans et demi.
Les départements français d'Algérie qui portaient les numéros 91 pour Alger, 92 pour Oran, 93 pour Constantine et 94 pour les territoires sud sont réutilisés 2 ans plus tard en 1964 pour créer la petite couronne de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et l'Essonne. Les engagements politiques de Sartre et Beauvoir ne doivent pas leur faire oublier la littérature. Encore une fois, en pleine guerre froide, le couple va accepter une nouvelle invitation à l'est du rideau de fer. Pour découvrir le dernier épisode de ce récit sur Sartre et Beauvoir, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt.